Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission des bavards du mois de mai. Vous êtes toujours sur 87.7 pour écouter notre émission mensuelle Overbooké. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Chris. Bonjour Chris.
Bonjour.
Juliette.
Bonjour.
Angélique.
Bonjour.
Hélène.
Bonjour à tous.
Alex.
Salut.
Et moi-même. J'ai le regret de vous annoncer que c'est ma dernière émission d'Overbooké.
On est trop triste.
On devrait mettre des petits
hyper
bruits, là.
Hyper triste. Oui,
des
voilà.
À rajouter.
On va mettre des petits cris de larmes, etc. Oui.
On a posé les Kleenex sur la table.
Exactement. Pour débuter cette émission, nous allons écouter Chris, qui va nous présenter une slameuse belge qui s'appelle Joy. On t'écoute, Chris.
Donc, merci Sam pour la présentation. Donc, Joy est une femme des années 1990, née en Belgique. C'est une slameuse d'origine italienne et burundaise. Ses origines sont très importantes pour elle, c'est pour ça que je les précise. Elle s'appuie dessus pour expliquer son combat pour les personnes racisées et pour les femmes majoritairement également. Donc, elle a 3 albums à son effigie. L'album Tram 25 en date de 2017, L'Art de la Joie en 2019 et Joy Band en 2022. Entre autres, elle a fait un tas d'autres projets comme un dossier pédagogique slam qui est téléchargé gratuitement sur son site, n'hésitez pas à aller le faire, et Paroles de femmes où elle recense des paroles de différentes femmes de Belgique, si je ne me trompe pas. Donc pour sa première musique, je vais vous présenter « J'avais oublié », qui est tiré de l'album « L'art de la joie », qui a été publié le 8 mars 2019 pour le jour de la journée des droits des femmes. Donc « J'avais oublié » est un témoignage de ses racines, où elle présente avec joie, on peut le dire, ses terres d'origine, avec une telle force et une telle passion qu'on ne peut pas s'empêcher de se laisser transporter par la musique et suivre ses souvenirs qui filent au fil des paroles. Bonne écoute.
Oublier le bon, la saveur d'un fruit, l'odeur du charbon, le poids de la nuit, les mers qu'on se trouve, leur regard de louve et puis la terre rouge. Oublier les tables où le monde s'invite, quand y'en a pour 4, bah y'en a pour 8. Oublier le don noyé d'impuissance. L'arôme du mélange, peau noire sur nuit blanche, les corps estropiés sur le macadam, les dents aiguisées, la faim qui tiraille, les mots retenus, la pudeur des femmes. Les muscles tendus sous le poids des charges. Oublier. J'avais oublié les fessiers qu'on roule, serrés sous le pagne, les cheveux tissés comme des œuvres d'art, les plats de riz, les femmes accroupies, leurs éclats de voix et leurs éclats de rire. Les cons, les bakchiches, les courses poursuites avec la police, la corruption sourde qui s'étend à tous, qui pourrit, qui ronge et qui gagne chaque couche. Oubliez les rues qui saignent.
Ensuite, Joy est quand même une personne modeste et dans son album L'Art de la Joie, ça tombe bien parce qu'elle présente Modesta. Donc il faut savoir que c'est un titre inspiré du nom de l'héroïne du roman de Gagliarda Sapienza, pardon pour l'écorche. Donc c'est un titre qui appelle à la révolte contre les injonctions et les carcans dictés par la société. Le clip montre une petite fille qui, lors d'un repas, est corrigée par ses parents sur toute sa posture. Et Joy est représentée comme sa conscience qui décide de se révolter et d'être libre. C'est un clip très touchant et marquant. Je vous laisse écouter ce titre, un extrait. du titre.
Elles t'ont appelé Modesta. Un prénom qui sonne comme un esclavage. Une injonction à tenir sa place, à rester sage. Une toute première leçon qui fait déjà si mal. Les nègres de maison n'ont ni sexe ni race. Depuis des siècles, les femmes aussi asservissent les femmes. Modesta, comme on déchire une page négligeable. Ma fille, voici ta cage en héritage. Sois fragile, naïve et délicate. Modesta, comme on refuse de noircir une case. Puisque les règles semblent immuables. Un point final pour commencer une phrase. Elles t'ont appelé Modesta, te préparant dès la naissance à baisser le regard, imaginant que tu ne laisserais pas de traces. Elles t'ont appelé Modesta, Modesta, Modesta.
Pour le troisième titre, on a Mon Pays 2, qui est un EP, qui fait partie du projet Joyband 2022 et qui parle des problèmes d'une société capitaliste qui est la Belgique. Donc elle parle de féminisme, d'écologie, de racisme, de pauvreté et d'autres sujets dont je passe, qu'elle peut parler par petites touches, mais qui fait toute son importance. Je vous laisse écouter ce titre.
Grisaille, corruption, suicide, discrimination, Covid, harcèlement, agression, féminicide, bavure, pollution, béton, attention, foulard, nombril, téton, ensauvagement, grand remplacement, bâtard, femme à barbe, vaurien, jeune fille trop bavarde, on s'excuse plus de rien. Poète public dans les stations de métro, éclectique écho d'une électrique époque. Ma place c'est les manifs, assos, prison, école. Mais niquer le capitalisme, c'est trop souvent bénévole. Je calcule pas, paraît qu'faut garder ça en tête. Accumuler le cash, apprendre à vivre en enfer. Viser le sommet, escalader les barreaux de l'échelle. Faire des jolis budgets dans des tableaux Excel. J'ai besoin de simplicité, j'aime pas penser trop lisse. Pas aller chez les friqués, les coincés, les potiches. Oublie les placements de conneries, les sponsoring. Je viens faire de la poésie, pas devenir la reine du shopping. Ni une artiste féminine, ni une artiste urbaine.
Pour finir, vous pouvez trouver Joy sur ses différentes plateformes. Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, Apple Music et sur son site joyslampoesie.com. Voilà. Merci pour cette chronique.
Merci.
Merci, Chris. Pour
c'était cool.
Est-ce que vous connaissiez Joy autour de cette table? Quelqu'un connaissait?
Non.
Pas du tout. Pas du tout, du tout.
Bon, alors, merci pour cette découverte. Du coup, on va aller voir vite sur les plateformes pour voir de qui, de quoi il s'agissait. C'est carrément inspirant. En tout cas, c'est des thèmes qui nous parlent ici et qui parlent aux bavards, je pense. Tout de suite après, on va écouter Sam. Sam, je crois que tu voulais nous parler d'un spectacle que tu as vu et entendu et qui t'a particulièrement marqué, je me trompe ?
Oui, tout à fait. En effet, le mois dernier, covidé, emmitouflé dans la couette avec le nez qui coule et des fichus SPM qui ne voulaient pas me laisser tranquille, le moral dans les chaussettes avec le contexte et les présidentielles qui arrivaient, moral à zéro qui était totalement justifié lorsqu'on voit dans quelle merde nous sommes aujourd'hui, j'avais besoin de rire. Gus me propose alors de regarder le spectacle comique Nanette, d'Anna Gatsby, me promettant que j'adorerais. Depuis mon début dans les milieux militants, j'appréhende pas mal de regarder ce genre de spectacle, avec un grand ras-le-bol des comiques qui tapent sur les femmes et les minorités sous couvert d'humour. Mais je lui fais confiance. On se pose, on allume Netflix, un tricot dans les mains d'Angus, des mouchoirs dans les miennes, à ce type j'en aurais besoin. Le chat est posé derrière nous sur le rebord de la fenêtre. Le spectacle commence. Et là, énorme claque. Cela fait plusieurs semaines, et quand j'y repense, je ne m'en suis toujours pas vraiment remise. Anna Gatsby, comédienne australienne, autiste, lesbienne, cheveux en pétard, lunettes rondes et blazer bleu marine, ne nous propose pas seulement un spectacle d'humour durant lequel on s'évade de notre quotidien en riant en larmes. Avec Nanette, Gatsby nous verse entre expériences personnelles et messages destinés au monde entier. Elle nous parle de culture du viol, de misogynie, de normes de genre, de santé mentale, d'art, qu'elle associe à son histoire et à son identité. Elle commence son spectacle en se moquant d'elle-même, de son look qui laisse certaines personnes qu'elle croise perplexes, tant il ne rentre pas dans les normes de genre. « Bonjour monsieur, madame, Anna s'en amuse. Elle nous parle de son coming out raté à sa grand-mère, de ses expériences lesbiennes, tout ça avec un ton très léger. Ayant commencé sa carrière avec de l'humour autodérisant, Anna Gatsby s'est rendue compte que cet humour, exercé par la plupart des comiques, ne fait qu'agrémenter la haine des personnes marginalisées. Elle prétend donc arrêter l'humour durant tout son spectacle. L'atmosphère prend alors une toute autre tournure. Comme une bombe, Anna Gatsby nous raconte la vérité. Toute sa vérité. Baignée dans l'homophobie de sa Tasmanie conservatrice, Anna Gatsby nous livre ses agressions qu'elle a subies à cause de son genre, jugées incorrectes, qu'elle a minimisées avec l'humour. Elle nous dit que l'humour n'est pas un remède, ce n'est que le miel qui adoucit l'amertume. Les histoires le sont. On se rend compte alors que ces histoires racontées au début du spectacle ne sont pas si roses que ça. Anna Gatsby nous livre alors ce qu'elle a vécu, sans artifice, avec toute la violence qui l'accompagne. Les larmes au bord des yeux, Anna s'adresse au public. Je vous confie cette tension. J'en ai marre de vous aider. Vous devez apprendre ce que ça fait de ressentir cela. Parce que cette tension, c'est ce que les gens non normaux portent en eux en permanence. C'est dangereux d'être différent. En tant que concernée, ces paroles ont fait écho en moi. Certes, elle confiait au public sa propre histoire, mais c'est toutes nos voix qui résonnaient à travers la sienne. Le spectacle ne cesse alors d'osciller entre calme et tempête. Vous allez rire, vous allez être révolté, vous allez pleurer, et vous n'en sortirez pas indemne. C'est en sanglots que j'ai fini de visionner son spectacle avec l'envie grandie de brûler ce putain de patriarcat. Alors, même si je ne suis pas une bonne référence pour savoir si quelque chose est émouvant ou non, sachant que je pleure devant moi moche et méchant, je vous conseille de préparer vos mouchoirs et de partager ce spectacle à toutes les personnes que vous croiserez. Merci.
Merci Sam. Merci. Ça donne super, oui. Super envie de le voir, je sais pas vous.
Disponible sur Netflix.
Sur Netflix, en effet.
En français.
En français, oui, il me semble. Et en tout cas, sous-titré en français. Oui,
pareil.
Disons que les émotions sont quand même plus fortes si vous arrivez à lire les sous-titres et tout. On ressent vraiment son ton.
Et elle est américaine.
Elle est australienne.
Australienne.
Oui, elle est australienne. Et c'est vraiment... c'est pas un simple spectacle d'humour, c'est vraiment ce qui était hyper intéressant dans ce spectacle, c'est vraiment de passer par toutes les émotions. Et comme elle dit, en fait, elle joue du public, elle joue avec cette tension constante, c'est-à-dire qu'elle va prendre un élément de son histoire, rigoler dessus, et en fait, tout de suite après, elle va en parler, et on va se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que la vérité est beaucoup plus compliquée, et on n'en sort pas indifférent, quoi. Et beaucoup de fois, elle s'adresse directement au public, et c'est bouleversant. Déjà, en tant que personne concernée, c'est bouleversant, et je me dis que même les personnes non concernées, ça peut peut-être leur faire un petit tilt. Et aussi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans son sujet, donc elle a fait des études d'histoire de l'art, et il y a tout un passage, par exemple, sur les artistes, et notamment sur Picasso. Et ça m'a fait du bien d'entendre, en fait, sur scène, face à des centaines de spectateurs, qu'il faut certes considérer que Picasso est intéressant dans l'histoire de l'art et qu'il est important au niveau plastique, au niveau de l'évolution de tout ça, mais que c'est quand même un énorme connard et qu'il faut cesser de l'aduler, en fait, ou alors il faut en parler tout en donnant la vérité, en fait, et en cessant de le présenter comme un dieu de l'art, etc. Et c'est la première fois que j'entendais quelqu'un en parler autant à voix haute, une personne qui a fait l'histoire de l'art en plus, face à des centaines de spectateurs, et du coup, je trouvais ça hyper intéressant.
C'est super, ça fait écho à tout un tas de conversations qu'on a déjà eues les unes avec les autres, les uns avec les autres. Il y a c'est super d'actualité, ce que peuvent dire ou ne pas dire les humoristes. Tout l'humour qu'on appelle ça déjà ? L'humour oppressif, qui est toujours sur le dos des minorités, effectivement. Donc c'est intéressant qu'il y ait des personnes qui s'intéressent à faire rire, ou pas rire d'ailleurs, mais du point de vue des minorités.
Ouais, c'est ça, et ça fait tellement plaisir de voir une personne concernée par les sujets sur scène et une personne face à laquelle on se retrouverait plus, entre guillemets, parce que beaucoup restent des hommes quand même, 6-7 sur scène, et du coup, moi, ça m'a fait vraiment du bien de voir, ça résonnait beaucoup plus en moi, en fait, donc c'était hyper intéressant. Donc je vous le conseille, regardez ce spectacle.
Moi j'ai juste un parallèle
parallèle à faire, c'est que, en plus, on est sur Amiens, donc je vais me faire taper sur les doigts, mais on parle beaucoup de Jules Verne ici, parce que c'est une idole, etc., mais il ne faut pas oublier non plus qu'il était contre les Juifs, etc. Enfin, il a fait beaucoup d'oppression lors de l'affaire Dreyfus. Et il ne faut pas l'oublier derrière le fait que ce soit un grand personnage, un très grand de la littérature. Derrière, il y a aussi une part sombre de lui qu'il ne faut pas oublier non plus.
Oui, c'est intéressant de le rappeler. Alex, on a eu une conversation il n'y a pas longtemps à ce sujet. Je ne sais pas si tu te souviens, on se disait comment on fait pour citer des auteurs ou des autrices féministes si elles ont eu des propos inconvenants. Et on en était arrivé à la même idée qu'effectivement, on peut en parler, mais ne pas oublier de dire que cette personne, elle a aussi dit des choses ou fait des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord ou qu'on ne cautionne pas.
Bah, c'est ça, et moi je trouve ça honteux parce que, par exemple, je ne sais pas si vous avez été au festival de la bande dessinée l'année dernière, mais il y avait toute une exposition consacrée à Picasso. Je le sais parce que c'est moi qui l'ai scénographié avec ma promo et qu'on a été forcés de la faire. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que du coup, on a travaillé avec une des spécialistes mondiales de Picasso qui s'appelle Androula Michael. Et elle nous a dit une phrase très intéressante que j'ai pas du tout cautionnée, c'est-à-dire que quand on a commencé à lui présenter nos projets devant elle, elle nous a dit que surtout, il ne fallait pas rentrer dans tous ces clichés que l'on considérait à Picasso, en fait. Alors pardon, mais si rentrer dans ces clichés, c'est dire ouvertement qu'il est misogyne, qu'il a violé, qu'il est sorti avec des femmes beaucoup plus jeunes que lui, qu'il a martyrisé psychologiquement des femmes, etc. C'est chaud. Et en plus, ce qui était très très drôle, ironiquement, c'est que cette exposition était en face de l'exposition féministe du festival, en fait.
Ah oui, je m'en souviens.
Très cocasse. Mais j'avais vraiment une haine parce qu'à aucun moment on nous a dit oui vous faites ce sujet mais on a conscience que Picasso est un énorme connard en fait, c'était non vous faites ce sujet mais surtout vous rentrez pas dans les clichés, surtout en gros vous ne dites pas que, enfin c'est honteux je trouve, encore à cette époque là je trouve ça honteux.
Tu veux réagir, Juliette?
J'avais juste un autre parallèle à faire, mais si vous aimez bien écouter des choses, il y a le super podcast, je vais y arriver, Vénus, c'est Pilettelle, la chatte, c'est aussi quelqu'un qui a fait des études de l'art et qui a fait tout un épisode justement consacré à Picasso, qui est extrêmement sourcé et vraiment son travail est incroyable. Elle fait peu d'épisodes, mais quand elle les fait, ils sont très très référencés et elle se prend encore beaucoup de haine par rapport à cet épisode. Et je pense que c'est vraiment très très intéressant si c'est la première fois que vous entendez parler de ça par rapport à Picasso. Là, vous aurez tout le contexte, toutes les informations et comment la manière dont on ne peut pas dissocier l'homme de l'artiste, encore plus quand dans son cas, il a représenté dans ses œuvres les sévices et les violences qu'il a fait à certaines femmes.
Voilà. Et d'ailleurs, si vous n'aimez pas écouter des longs podcasts, mais que vous préférez les vidéos un peu plus courtes et plus vulgarisées, il y a Manon Bril qui a repris ce podcast pour en faire une version plus vulgarisée sur YouTube et animée. C'est Manon Bril, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, pardon. Du coup, voilà, n'hésitez pas.
Et le podcast, Juliette, on le trouve sur quelle plateforme?
Sur toutes les plateformes d'écoute, il me semble. Je crois qu'il est sur Deezer, Spotify. Elle a un compte Instagram aussi.
Et ses autres podcasts parlent de quoi?
Elle a plusieurs épisodes qui sont vraiment... avec des thématiques à chaque fois très précises. Donc, il y en a vraiment un sur Picasso lié justement à peut-on différencier l'homme de l'artiste. Et là, elle en a sorti un très récemment sur... les peintresses romantiques et je l'ai pas encore écouté mais elle en a à chaque fois, c'est vraiment sur des thématiques très propres et sur comment le genre peut, enfin les questions de genre et un regard féministe peut apporter en fait des grilles de lecture différentes et
sur l'art plutôt du coup
sur l'art, c'est vraiment dédié à l'histoire de l'art à chaque fois. Voilà.
Merci. Eh bien, dis donc, Sam, cette chronique, elle a fait réagir. C'est super chouette. Je vous propose de faire une petite pause musicale et d'écouter Garçon manqué de Georges K. On se retrouve tout de suite après.
Tu m'as dit garçon manqué ? J'ai entendu fille manquante. Une fille et garçon raté, un garçon et fille absente. Garçon-fille, je pensais que c'était plié à la naissance, mais ils sont revenus à la charge au début de mon enfance. Courir, taper, grimper, ramper, casser, salir, ces garçons. Mon père le savait pas, il m'a élevé à sa façon. voulais juste un enfant confiant, sûr de lui. Il m'a fait faire du vélo sans petits trous et courir sous la pluie. Je le sentais fier quand je rentrais, les cheveux pleins de boue avec des cratères rougis à la place des genoux. C'est qu'il voulait pas que je m'amuse moins, par peur de trouer mes collants et qu'une peur se surmonte moins bien quand on n'est plus enfant. Après, c'est vrai qu'au terrain vague, je voyais que des garçons et des papas, mais je voyais surtout des mômes qui voulaient bien jouer avec moi. Alors au sport en primaire, on me mettait avec les garçons. Mais le plus faible des garçons n'allait pas chez les filles, parce que dans mon sens, ce mercato était une distinction, mais que dans l'autre, c'était traiter le garçon de fragile. C'est là que ça a commencé. Les regards et les surnoms. Garçon manqué, je l'ai intégré sans trop me poser de questions. Puis l'adolescence m'a appelé frère. Camionneuse ou bien gouine, on demandait à ma mère pourquoi j'avais pas de copine. Tu m'as dit garçon manqué. J'ai entendu fille manquante. Une fille et garçon raté, un garçon et fille absente. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi il fallait trancher. Comment le monde se répartissait en une dualité sans interstice, fille, garçon, identité codifiée, fringues, fournitures scolaires séparées au supermarché. Aujourd'hui, j'y suis enfin. La silhouette féminine que m'avait prédit la pédiatre et promis les magazines. Fille manquant à l'appel a fini par pointer, alors pourquoi dans tout ce que je fais on continue à arbitrer ? Je parle fort, avec une voix grave, une voix forte, c'est garçon. Sauf quand ce que je dis, c'est pas trop con, alors là c'est bon, je suis une fille forte en affirmation, une future femme qui devra juste adoucir son ton. J'embrasse un garçon, c'est fille. J'embrasse une fille, c'est garçon. Parce qu'une fille qui aime fille, c'est une contrefaçon, c'est une fille qui fuit par dépit, par phobie des garçons. Trop laide ou trop conne pour attirer les bons. Fille ne te fait pas l'amour, fille on l'apprend. La nuance est faible, mais quand on est fille, on l'apprend. Mais fille veut pas qu'on la prenne, fille veut qu'on la prenne en compte. Fille veut qu'on prenne la peine d'essayer de comprendre pourquoi fille est objet passif. Et pourquoi garçon est celui à qui dans l'intime on confie l'action, celui qui prend par derrière, sur la table ou par surprise. Pourquoi pour du plaisir mutuel garçon prend et fille est prise. Alors quand tu me dis que je suis fille, tu ne fais pas référence à mon inné chromosomique, mais bien à des tendances, traits de caractère, goût, penchant, passion, facilité, sinon tu pourrais pas me dire que je suis fille, mais pas assez. On nous calque nos désirs, nos habiletés, et on statue par avance sur nos désirabilités. On est fille de fil en aiguille, car c'est comme ça qu'on nous tisse, fille ou garçon, des attributs d'un sujet factice. Et si tu penses que mon combat n'en vaut pas la peine, moi je suis fille depuis le début, c'est à toi que ça pose problème.
Eh bien c'était un super chouette morceau, et maintenant on écoute Alex qui va nous lire un témoignage recueilli par Tan dans l'ouvrage qui s'appelle TDS, Travailleurs, Travailleuses du sexe. On t'écoute Alex.
Du coup c'est une série que je continue, et là ce sera le témoignage de Tilly, qui est Calm Girl. Il y a quelques mois, j'ai commencé à faire des cams. Ce qui veut dire trouver un client qui désire payer d'avance pour un temps défini de webcam entre lui et moi, incluant en général de la nudité et des pratiques sexuelles par écran interposé. La première fois, j'étais stressé. Le mec avait payé pour 30 minutes. Il a joué à la 8e minute. La panique. Comment meubler les 22 minutes restantes? Je fous quoi dans ce cas-là? J'ai angoissé dans ma tête pendant un temps qui m'a paru long, tout en minaudant devant mon écran. Mais le mec m'a remercié, s'est confondu en excuses, de devoir me laisser. Il a dit que j'étais incroyablement belle et s'est déconnecté. Seul sur mon lit, j'ai pu tranquillement redescendre en pression en me disant « Putain, c'était tellement pas si terrible que ça. » Quand j'ai commencé à faire des cams, je me suis dit que ça réglerait tous mes soucis de thunes, que je pourrais peut-être être large et payer des coups aux copines, réparer ma caisse et claquer du prix libre démesuré en m'épargnant des calculs enquiquinant les soirs de concert des copains. Ah ah ah, vaste blague. Désolé, déjà je passe un temps fou à chercher les clients et à faire des photos. C'est-à-dire, m'habiller, préparer l'arrière-plan, reprendre une paire de clichés, les télécharger, trouver des formulations qui donnent le ton. Ensuite, il faut entretenir le lien avec le client qui te contacte. Le nombre de mecs qui ne souhaitent pas seulement des images, mais une connexion particulière, entre guillemets, c'est hallucinant. Oui, évidemment, cela signifie qu'il va falloir correspondre à des attentes prédéfinies tout en les surprenant. Et ça demande une certaine énergie. Au départ, pour mon impératif financier, j'essayais trop de correspondre à tout ça. Pour bien me faire prendre pour une conne, évidemment. Une paire de fois, à la dernière minute, je ne correspondais pas à ce qu'il me recherchait. Il m'a fait perdre un temps fou d'écriture, de séduction, de pose lascive, tout ça pour rien. C'est courant. Certains mecs ne sont simplement pas des clients, juste des mecs en chien surfant sur nos besoins de thunes. C'est tombé sur moi comme c'est tombé sur tout un tas de gens, sur des sites de cam ou de rencontres. J'en suis sûr. J'ai donc appris sur le tas à me poser mes conditions, en pensant au départ que ça allait filtrer trop de clients éventuels. Alors oui, de messages, mais ça a surtout permis d'épurer les mecs pas du tout prêts à payer pour ton taf. Je gagne en temps et en qualité des échanges. Le pire, c'est d'être seul. De débuter sans personne avec qui discuter, qui pourrait te dire, entre guillemets, « Meuf, tu vas te faire avoir, c'est un blaireau qui paiera jamais. Meuf, désolé que t'aies à recevoir les fantasmes de plus vus et revus de certains mecs. » Apparemment, ça en fait bonder plus d'un dans vos messages aussi longs que mon désintérêt, relatant en détail tout ce qu'il aimerait me faire. Sans surprise, c'est une trame tirée d'un porno mainstream maté sur une plateforme gratuite. Ce genre de mec qui s'attend à ce que tu le gratifies pour avoir joui rien qu'à la lecture de ses fantasmes et à ce que tu lui proposes je ne sais quoi de toi pour le remercier. Mais oui, bien sûr. Pay me. Mais quand même, ça me permet de finir le mois sans stress. Je ne gagne pas de milliers d'euros, déjà parce que je n'en fais que quelques heures par semaine, en complément de mon autre boulot. Ça me bouffe un temps énorme entre la préparation physique, entre parenthèses camoufler les tatouages, se raser, anticiper les épilations et la repousse des poils de ta chatte, se maquiller, se vêtir. Trois petits points. La déco de la chambre, rangée en majuscule. Tendre les draps pour masquer les affiches et les photos, créer un endroit cocooning, sexy, torride, éloigner les chats. Les mails échangés, l'organisation du planning, les rendez-vous reportés. C'est pas le travail le plus lucratif du monde. Mais c'est moi qui fixe mes horaires, mes conditions. J'ai le privilège de pouvoir suspendre ou reporter les cams quand je me sens vraiment pas bien. Il n'y a que ma coloc qui sait ce que je fais. Je me suis senti un peu obligé de lui dire, parce qu'elle vit avec moi, que ça implique quand même des risques. Et puis surtout, je n'ai pas pu lui cacher bien longtemps le panneau, entre guillemets, ne pas déranger, rendez-vous Skype en cours, sur la porte de ma chambre, qui paraissait un peu trop suspect. Je me sens plutôt seul, isolé, je n'ai personne à qui parler. Quand une cam ne se passe pas hyper bien, que des échanges me mettent mal à l'aise, ou quand j'ai besoin de conseils techniques. Quelle plateforme éviter? Comment me protéger numériquement? Que dois-je déclarer? Ça me semble important de pouvoir en discuter, mais je ne connais personne dans mon entourage qui pourrait réellement comprendre et me soutenir ou juste partager ses internes expériences. Même ma meuf ne sait pas, ou pas encore pour le moment. Ni mes amis les plus proches et encore moins ma famille. Parce que j'ai peur. Peur de leur réaction, de leur maladresse, des indiscrétions, de devoir leur relater des anecdotes troussillantes. Peut-être que je leur prête des comportements qui, elles, n'auraient pas, absolument pas, mais certaines discussions sur les, entre guillemets, pseudo-féministes qui se font du beurre sur le patriarcat au lieu de dénoncer, auxquelles j'ai pu assister, ne me donnent pas le courage et encore moins l'envie de sortir de mes stratégies de protection. Tant pis, j'avance seul dans le darknet comme un requin dans les zones épiphélagiques et je suis fier de l'affaire. Fier de ce que j'accomplis malgré les doutes, le stress, l'énergie déployée et constante que ça représente. Les clients que j'ai pu avoir ne sont pas d'atroces personnes humiliantes. Je reçois des mots doux, des compliments, des suppliques, des remerciements. Et quoi, ça fait de moi une mauvaise féministe, un mauvais membre de milieu très sélect et exigeante, bigouine si j'affirme, entre guillemets, non, mes clients ne me font pas gerber. Pour certains, j'ai de la tendresse, avec d'autres une complicité, d'autres, tandis que d'autres encore m'ennuient ou même ne suscitent vraiment pas d'intérêt, autre financier. C'est quand même assez représentatif de toutes les personnes que je peux rencontrer au cours d'une journée sans cam. Amis, amantes, collègues, hiérarchie. Parce que là, je montrerai ma chatte, mes boobs et mon cul. Je devais faire de la gêne de chercher la compassion? Nope. Trouvez-vous des victimes fictives ailleurs que dans ma vie? et négligez pas mon temps ni mes justifications. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'au début, lors des entre guillemets débats sur les droits des TDS, entre parenthèses, vous savez, ces victimes pro-système prostitutionnel, j'avais tendance à justifier le fait de faire des cams, à argumenter sur le fait que j'étais un des choix mûs par des nécessités matérialistes. Aujourd'hui, mais qu'est-ce que je m'en fous de prouver aux abologues et abolos que c'est une réponse à la précarité et au, entre guillemets, je ne pouvais faire autrement. Si elles écoutaient vraiment, on n'en serait pas là. Après des mois de violence, de mort, de contamination, de harcèlement, de précarisation des TDS perpétrés depuis la loi de pénalisation des clients. Certes, si je faisais ce travail, c'était parce que c'était la seule réponse exigeante face à une accumulation de contraintes restreignant l'accès à un salaire décent. Mais aujourd'hui, je n'échangerai cette activité professionnelle pour rien au monde du travail. Aujourd'hui, ma caisse est toujours en panne, mais je n'ai plus de dette. Camgirl, c'est un de mes deux travails, et je ne fais toujours pas en traînant les pieds, surtout quand je sais ce qu'ils peuvent me rapporter. C'était Tilly, en février 2019.
Merci Alex. C'est toujours chouette de pouvoir entendre des témoignages de TDS, parce que c'est vraiment des paroles qu'on n'entend pas. Donc merci de partager ça avec nous.
Bah yes, mais c'est encore un sujet entre guillemets tabou en fait, et c'est difficile d'entendre des voix.
Surtout que ça fait vraiment débat effectivement chez les féministes. Elles parlent à un moment donné là de mauvaises féministes. Moi ça me fait toujours rager en fait d'entendre ça. Il n'y a pas de bonne façon de lutter contre le patriarcat. Il y a cette idée que le patriarcat, c'est une guerre qu'on nous fait à nous et que du coup, on a le droit d'utiliser toutes les armes qui sont à notre portée. C'est plutôt de la guérilla, quoi. C'est de la défense. Donc allons-y, quoi. On se bat comme on veut, on se bat comme on peut.
Que tout le monde soit en sécurité.
Ouais,
et ça puis se défendre. Fait.
Merci. Une réaction dans la salle ?
Non, moi je crois qu'on m'avait déjà lu ce texte il n'y a pas longtemps, mais c'est toujours un plaisir de le redécouvrir.
Bah ça alors.
Waouh.
Et ça fait deux fois que tu lis des témoignages de ce livre-là. Est-ce que tu as d'autres sources potentiellement où tu as déjà entendu des témoignages ou potentiellement des endroits où, des documentaires ou je sais pas, ou des séries où tu aurais vu une représentation qui t'aurait semblé juste?
Dans les séries, c'est pas encore trop le cas, mais il y a énormément de comptes Instagram, entre autres, pas que sur Instagram, mais sur les réseaux, on va dire, de militantes et militants qui essaient de libérer la parole sur ça. Il y a, je crois qu'il y a un compte qui s'appelle Paye ton client, ou ce genre de choses, où il y a toutes des petites anecdotes. Ensuite, il y a des choses qui sont...
Des pépites de pute.
Oui, il y a... Dans cet ouvrage, ce recueil, il y a aussi le témoignage de Cybelle, l'espérance, qui a... du coup, j'ai fait appel à ma mémoire, et je me rappelle que sur les réseaux, elle est assez active pour dénoncer par choses. Il y a Osmose aussi, qui est un TDS, qui est nomade aussi, et qui vise beaucoup d'oppression vis-à-vis des TDS, et de problèmes qui sont dans les luttes. Je ne sais plus, il y en a d'autres, mais là, je n'ai pas fait la liste, je suis désolé. Mais il y a des gens qui essaient de visibiliser ces paroles, qui sont concernés, oui.
Merci.
Eh bien, si vous voulez bien, maintenant, on va écouter un poème d'amour qui est écrit justement par Juliette.
Mm-mm, un peu de douceur.
Oui.
Sous les couvertures, océan lavande d'organza, ma douce créature, tu te noies, mais sans moi. Sans malice, je baise tes lèvres, y dépose mélisse et autres herbes à rêve. Déjà, au crépuscule, je tressais sur tes paupières des fleurs funambules, j'enviais ton privilège. Depuis notre rencontre, le monde des songes pour moi s'effondre, pour toi s'élève. Fantôme rose poudré, auprès de toi je m'allonge et sur ton ventre sablé murmure des sortilèges. Je suis la voleuse aux rêveries perdues. Dans cette poitrine nébuleuse, je plonge ma main délicate. Entre valériane et passiflore se mêlent à tes veines nues. Un océan cerné, un cœur cerné qui dort encore. Et mon reflet, mes yeux fanés. Si la lumière du jour vient nous surprendre, réveille-toi mon amour. Sous la lune tu t'absentes. Enfin, je rêve, ma chère, ma douce, ma tendre.
mais quand le soleil se lève, tu disparais de l'oreiller. J'observe alors les murs de la chambre vide de toi. Par la fenêtre, bleu azur, les oiseaux chantent déjà.
Merci Juliette.
Merci.
C'est très beau. C'est trop court.
Ah, oh, j'allais dire, oui, c'est trop court. Oh, je suis surprise que ça soit déjà fini, je suis presque déçue.
Bah, il faudra, je sais pas, j'en écrirai des plus longs.
Avec plaisir.
Moi, j'aime bien les choses courtes aussi, mais...
Bah, en vrai, j'en écris, enfin, il y a un peu de tout.
C'est bien aussi, enfin, s'arrêter et puis... Ça j'adore envie. Ta voix, je
vais envie
de le dire, si tu acceptes de le recevoir.
Bah, oui, merci.
Merci Juliette, bon, on est tous charmés. Hein. mais du coup, je vais quand même lancer Angélique. Angélique, ta voix non moins douce.
Ah non, je n'ai pas une aussi belle voix, c'est pas vrai. J'aimerais bien.
Mais lis-nous doucement.
Un la sujet clé, un petit peu moins sympathique aussi, si je ne m'abuse, puisque tu nous proposes un extrait de « Défaire le discours sexiste dans les médias ». Donc un texte qui a été, un recueil enfin, de textes écrits par Rose Lamy, qui est cette personne qui fait le formidable compte Instagram « Préparez-vous pour la bagarre ». Et je crois que là, tu vas nous parler plus spécifiquement de la façon dont les médias parlent des violences faites aux femmes.
Tout à fait, je crois. Dans les médias, quand il est question des femmes, elles sont généralement présentées à travers le regard des hommes et sont sans cesse mises à distance, empêchant le lecteur de s'identifier. Une fois le lecteur libéré de cette empathie encombrante, il peut alors rire de la violence exercée sur ses citoyennes de seconde zone. Dans les faits divers, le comique repose sur différentes figures de style, à commencer par le comble, soit l'association de verbes d'hyperviolence, par exemple électrifier, étrangler, tuer, égorger, ou mettre à la poubelle, avec des motifs aussi futiles que des grumeaux dans la pâte à crêpes, une pizza pas cuite ou des ronflements. La disproportion entre la cause de la violence et sa conséquence, qui est généralement issue du discours de l'accusé lui-même, crée la surprise. Cette sidération et la dissociation mentale dont elle est à l'origine nous empêchent de penser la situation rationnellement. Dans un réflexe de protection, elle déclenche le rire. Cette brève est l'illustration parfaite de ce phénomène. Loiret, mécontent de son gâteau d'anniversaire, il mord sa compagne et lui arrache le lobe de l'oreille. Difficile de ne pas sourire à la première lecture. Pourtant, prenez 2 minutes pour imaginer la scène. Ça devient vite insoutenable, n'est-ce pas ? Les faits divers regorgent de procédés comiques. Dordogne, il monte en pression et frappe sa femme qu'il soupçonne d'avoir bu de la bière. Quand on s'intéresse de plus près à l'affaire, on apprend que parce qu'une bière manquait dans le réfrigérateur, la victime s'est vue prescrire 3 jours d'incapacité totale de travail. Nettement moins drôle sous cet angle. En novembre 2020, Pure People partage un article consacré à Jules Banchetri, le fils de Marie Trintignant, assassiné de 19 coups de poing portés par Bertrand Cantat. J'imagine le journaliste ou la secrétaire de rédaction réfléchir au titre. Peut-être faudrait-il faire preuve de précaution, redoubler par égard pour cet orphelin dont la vie a été bouleversée par cette tragique affaire. Mais en même temps, pourquoi se priver d'une bonne blague ? Et voici le résultat. Marie Trintignant, son fils Jules, futur mannequin. Leur ressemblance frappante avec un élégant clin d'œil aux circonstances de la mort de sa mère. Parmi les procédés sexistes utilisés pour provoquer le rire, il y a le fait de parler d'une femme en sa présence à la troisième personne. Personnellement, peut-être parce que je suis la plus jeune d'une grande famille, j'ai toujours trouvé ça intolérable. Il me semble que cela me prive de mon altérité et de ma capacité à participer à une discussion entre individus égaux. Bien souvent, ce procédé est utilisé pour rire de la personne en question. On ne rit plus avec, on rit d'eux. À la télévision, les exemples ne manquent malheureusement pas. En 2004, sur le plateau de Tout le monde en parle, Thierry Ardisson dit à l'Assemblée au sujet d'Olivia Ruiz en sa présence. Elle est mignonne, elle n'a pas de sein, mais elle est mignonne. Lors d'un reportage d'Envoyé spécial, Arnaud Montebourg est interrogé par Delphine Pruneau. L'échange est sportif. La journaliste a un point de vue aiguisé. L'ancien ministre l'interrompt alors et s'adresse à une personne hors champ, qui semble être le caméraman, et demande « Elle est toujours comme ça, la petite ?» Voilà comment se protéger du risque d'être déstabilisé ou ridiculisé en public par une interlocutrice plus habile, en l'humiliant et en la ramenant au rang de petite fille dont on juge le comportement entre hommes. La violence monte d'un cran quand les hommes passent d'un paternalisme faussement bienveillant à l'exercice du sexisme dans sa forme la plus pure. En 2020, Jean-Luc Lahaye et sa compagne, dont on ne sait que le prénom Paola, sont interviewés sur le plateau de Non-Stop People. le présentateur évoque le goût de Jean-Luc Lahaye pour les jeunes femmes. En vérité, il est accusé d'agression sexuelle sur mineur et condamné pour atteinte sexuelle sur mineur. Puis, il s'adresse à Paola. Comment vivez-vous, vous ? Avant qu'elle puisse émettre un son, Jean-Luc Lahaye lui coupe la parole, s'adresse au présentateur et dit « Elle n'est pas jeune, elle, je l'ai choisie à l'échographie. » On me dira que c'était de l'humour, mais moi je n'ai pas ri. Je n'ai pas ri non plus quand Vaila Lama Chavez, alors Miss France, est considérée comme un objet d'excitation et un moyen pour lutter contre la baisse de natalité d'une nation entière par Laurent Ruquier, interpellant des millions de téléspectateurs. Le taux de natalité, c'est comme les salaires, il n'augmente plus. D'ailleurs, vous qui nous regardez en ce moment dans votre lit, pour relancer la natalité, nous avons invité Miss France. Ça devrait vous donner des idées. Je n'ai pas ri non plus à cette blague de Tex sur les violences conjugales. C'était sur le plateau de C'est que de la télé sur C8. Et elle s'adressait aux hommes. Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? Et du coup, qu'est-ce qu'on dit ?
Ah !
Je sais pas, qu'est-ce qu'on dit ?
Alice ? Non, j'ai oublié.
On va porter plainte ?
En plus, tu l'as dit.
Oui.
Trop parler, non,
apparemment, j'ai déjà lu ce texte, donc je l'ai déjà dit. Et ben, on lui dit rien parce qu'on lui a déjà expliqué deux fois. La tolérance, voire la complaisance des chaînes à la réification des femmes, au paternalisme et à l'humour sexiste, s'étend parfois jusqu'à l'exercice des violences sexuelles sur les plateaux. Preuve de la méconnaissance des lois protégeant les femmes et de l'impunité dont les hommes ont bénéficié jusqu'alors, la violence est souvent minimisée, présentée comme une expression de l'humour. Et les exemples sont nombreux. En 2006, déjà sur TF1, l'acteur pornographique Rocco Siffredi empoigne la co-animatrice Cécile de Minibus et simule un rapport sexuel, lui fait subir maintes baisers et caresses de force. Autour de la table de la méthode Coé, des cris résonnent. « Fais-lui l'amour, Rocco, fais-la jouir !» entrecoupé de rires gras. Cette séquence consternante a été évoquée en 2017 par l'intéressé. Sur RMC, Cécile de Minibus explique « Quand on a 10 ans de recul, l'évolution des mentalités fait qu'effectivement c'est une agression sexuelle, mais pas pire que celle qu'il a faite en coulisses, de me soulever et de me fourrer sa langue dans la bouche. » Là, j'avais appelé la sécurité. Le 23 septembre 2017, sur C8, Laurent Baffy soulève la jupe de Nolwenn Leroy sous les éclats de rire de Thierry Ardisson. « C'est pour l'audience !» interroge ce dernier. « faut du cul !» répond Laurent Baffy. Nolwenn Leroy retire la main de Laurent Baffy et lance. « Je tiens à préciser que je le laisse faire parce que c'est Laurent et c'est mon ami. »« C'est une jeune maman, Laurent !» ajoute Thierry Ardisson. « Une belle jeune maman !» conclut Laurent Baffy. Encore une fois, on ne rit pas avec, mais on rit de Nolwenn Leroy, qui n'a sûrement pas consenti à ce qu'on soulève sa jupe en direct à la télévision. Agression sexuelle et possible délit d'upskirting, soit dit en passant. Même si elle semble rire de la situation. Le 14 octobre 2016, dans l'émission « Touche pas à mon poste », le journaliste Jean-Michel Maire embrasse la poitrine de Soraya Riffi par surprise, après que cette dernière a refusé plusieurs fois de lui faire la bise. Ce qui s'apparente à une agression sexuelle est perpétré en direct à la télévision française et de nombreuses internautes et féministes se mobilisent pour qualifier et critiquer ce qui s'est passé. Le CSA reçoit plus de 250 signalements pour cette séquence. Jean-Michel Maire s'exprime, les larmes aux yeux, quelques jours plus tard, affirmant « regretter ». Même si je le voulais, il serait impossible de lister toutes les violences sexistes et sexuelles à la télévision. À l'occasion de la sortie du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste », j'en ai découvert de nouvelles. Notamment plusieurs séquences d'agressions sexuelles perpétrées par Pierre Ménès. Ces scènes, en plateau, ne sont pas rares. Ce ne sont pas des exceptions à une norme où les femmes sont respectées. En réalité, le sexisme médiatique suit l'exact même continuum des violences que celui qu'on observe dans la société. Heureusement, les violences les plus graves sont identifiées, mais chaque jour, en tant que téléspectatrices, nous assistons à une multitude d'agressions ou de violences plus subtiles auxquelles nous finissons par nous habituer et ne voyons plus. Une femme à qui on coupe la parole, à qui on attribue un surnom, dont on parle à la troisième personne en sa présence. Finalement, cela installe un climat dans lequel tout devient possible, jusqu'aux actes les plus condamnables. Voilà.
Merci Angélique, c'est glaçant ce texte.
Et tout le bouquin est un peu comme ça, du coup je le lis doucement, parce que faut avaler la situation.
Oui, à petite dose effectivement, pour pas être remué. Oui, c'est glaçant. Et puis, on comprend que tout ce qu'on voit à la télé, comme ça, dans les médias, ça alimente la culture du viol en permanence.
Oui, du coup, ça banalise les choses. Oui.
Bah, et puis, c'est l'impunité, je trouve, le plus terrible. Enfin, c'est de se dire que même en étant filmé, ils se permettent ça. Donc, on se dit, mais c'est ce qu'elle raconte par rapport à Rocco Siffredi, c'est ça ?
Oui.
Avec le fait que ce qui se passe sur le plateau, ça continue en coulisses aussi. Donc, C'est glaçant.
Et puis en général, c'est de l'humour, c'est les féministes, elles comprennent pas.
Ouais, elles cassent l'ambiance.
Et pour le coup de Jean-Michel Maire, moi qui regardais Touche pas à mon poste à l'époque, il était vraiment en pleurs et très gêné. Du coup, il se justifiait en disant je suis un mec bien, j'ai des enfants. Enfin, c'était juste une blague. C'est les téléspectateurs qui ont signalé au CSA qui n'ont pas compris la blague. Lui, c'est un mec bien, il a des enfants, du coup, c'est un mec bien.
Ouais.
Moi, ce que je trouve accablant, c'est qu'en fait, toutes ces violences, en fait, finalement, il y a quand même beaucoup qui ont été commises en public, en fait, sur des trucs qui sont largement diffusés. Et du coup, ça laisse la porte ouverte, en fait, à plein de gars, en fait, qui se sentent, du coup, tout peinards, dire, s'ils le font sur un plateau comme ça, peut-être que je peux le faire.
Et oui, c'est ça.
Ça autorise, en fait, des choses.
Elle parle aussi beaucoup des médias.
Des agressions sexuelles.
Oui, elle parle aussi beaucoup des médias écrits, la presse écrite, où il y a encore pas longtemps, on parlait de crime passionnel. Et du coup, c'est pas un crime passionnel, c'est un féminicide, parce que la passion mène pas à un meurtre. Jamais on tue par amour. Jamais, ça n'arrive pas. C'est pas de l'amour, en tout cas.
Eh bien, merci Angélique. Je vous propose maintenant d'écouter un petit morceau de musique. On va écouter Emma Peters qui nous chante Fou.
Ok. C'est pas moi qui fixe les règles, mais c'est moi qui tire les cartes. Et si demain tu m'agaces, de ma vie je t'écarte. Y'a pas de place pour les jaloux, les rageux, les envieux. Aimons-nous maintenant, demain j'ai peur qu'on soit trop vieux. Les plus belles histoires sont celles qu'on se fait dans la tête. Dedans je te guette, dehors tu m'arrêtes. Mes plus belles amourettes sont celles que je m'invente. Entrée VIP pour ma tête et si ça te tente, ouais. Faut pas croire ce qu'ils racontent. Ils ne me connaissent pas. Gros virement sur mon compte. Non, ça leur plaît pas, mais cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout, cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout. Je te quitte pour un seul mot. Je t'épouse pour un texto. Je pleure pour un ciel pauvre. Je tiens plus debout mon salaud en cavale dans Paris toute la nuit. J'ai bu beaucoup trop de lit, je sais pas comment je vais rentrer. Mais si de tes bras tu me sauves de mon cauchemar, je te jure que c'est la dernière fois que je rentre aussi tard. Oh, c'est la terre des terres. Je l'ai promis à ma mère. C'est la terre des terres. Cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout, cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout.
On est de retour dans Overbooké sur le 87.7 et on va écouter maintenant Hélène pour l'épisode 2 de sa chronique et le plaisir dans tout ça.
Merci Angélique. Alors le mois dernier, je vous disais ma révolte contre l'absence d'éducation sexuelle et l'ignorance de l'anatomie féminine d'une part et du plaisir féminin d'autre part. J'accusais notre culture patriarcale capitalo-hétéro-cis-normée de nous élever et de nous garder dans cette ignorance et de mettre nos corps au service des dominants, des hommes blancs, cis, hêtres. Et vous étiez d'accord avec moi. Merci, meuf. Aujourd'hui, je vous propose de parler de lutter contre cela. Comment, me direz-vous peut-être ? Eh bien, en s'éduquant. En s'éduquant soi-même et en s'éduquant les uns les unes les autres. Quand je faisais encore partie du monde hétéronormal, je pensais que me mettre à la masturbation suffirait à trouver mon étoile. On appelle ça comme on veut, hein ? Et de fait, la masturbation... Elles ont compris.
C'est beau.
Et de fait, la masturbation est d'une grande aide pour trouver ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, comment on atteint l'orgasme, si on peut en avoir plusieurs, découvrir notre corps et ce qui nous procure du plaisir. Et, en ce qui me concerne, la masturbation a été très efficace. Mais je n'ai pris du plaisir dans chaque rapport avec mon ex-homme cis-blanc qu'à partir du moment où j'étais suffisamment en colère contre lui, pour d'autres raisons, hein, vous n'avez qu'à venir voir ma conf, qui s'appelle « Où est le patriarcat dans ma vie ?» de l'importance d'avoir une chambre à soi. Oui, j'en profite pour faire de la promo. Et je n'ai pris du plaisir à chaque rapport qu'à partir du moment, disais-je, où j'étais suffisamment en colère contre lui pour n'en avoir plus rien à foutre de ce qu'il pouvait bien penser. C'est-à-dire que j'ai pu me lâcher suffisamment que quand j'ai cessé de me sentir concernée par son jugement, quand je l'ai jugé illégitime à me juger. Dommage d'avoir dû attendre d'en être arrivée là, me direz-vous. Et vous auriez raison. Mais on ne choisit pas toujours bien les voies de la déconstruction, n'est-ce pas ? Souvenez-vous, le mois dernier, je vous disais qu'en le quittant, je pensais ne jamais pouvoir retrouver un homme aussi patient avec ma sexualité. Re-lol. Je n'avais pas encore suffisamment déconstruit tout ça pour comprendre pourquoi la masturbation ne suffisait pas. Pourquoi son idée, à lui, de réussir sa vie sexuelle de performance foirait toute l'entreprise de mon plaisir. Je n'avais pas compris que sans le patriarcat, je ne me serais jamais trouvée dans la situation d'être un objet de plaisir qui devait œuvrer pour rester belle et désirable aux yeux des hommes dans leur compétition interne où nous ne sommes que des figurantes. Sans le patriarcat, je n'aurais jamais culpabilisé à l'idée que je lui gâchais sa vie sexuelle. Sans le patriarcat, je n'aurais pas eu honte de me masturber, de rechercher mon plaisir, honte de mes désirs, honte de ne pas être multi-orgasmique ou de ne pas désirer de faire du sexe avec mon partenaire. Aujourd'hui, on ne nous apprend toujours pas les bases de la sexualité à l'école, alors que c'est crucial, vital, essentiel pour notre santé physique et psychique. Cela fait partie des besoins essentiels dans les critères de l'OMS, tout comme boire et manger. Pour ma part, il y a quelques années, j'ai voulu me former pour devenir formatrice de vie sexuelle et affective au lycée. Et je suis tombée sur un formateur de la pire espèce qui pensait que le féminisme n'était pas compatible avec les valeurs de la République et qui ne savait même pas qu'on appelle le sexe féminin la vulve. Laisse tomber le formateur. Petit rappel, le féminisme, c'est l'égalité. Hein. Si ça, c'est pas dans les valeurs de la République, faut peut-être arrêter avec elle. Hein. Bref. Dans le troisième épisode du documentaire « Les principes du plaisir », une citation fait écho avec ce qu'on entend et ce qu'on vit au sein des bavardes. Un éducatrice sexuelle dit « Aucune femme n'atteint l'âge adulte complètement indemne en termes d'expérience sexuelle. Il est essentiel de dépasser ses blessures à travers la gentillesse, la compassion et l'honnêteté, car c'est uniquement en passant par ce processus qu'on pourra prendre ces histoires au sérieux quand on les entend de la bouche des autres. » C'est quelque chose qui fait écho chez nous. Je vous en parlerai peut-être après la chronique. En soi, pour se former, pour comprendre comment nos corps fonctionnent, comprendre ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé, pour comprendre que ce n'est pas notre faute, se défaire de la honte pour prendre du plaisir, il existe aujourd'hui des livres, des comptes Insta, des documentaires très bien fichus qui ne méritent qu'à être transmis et partagés. Alors, je vous encourage, partageons sur ce thème. Un des faits que je voulais partager avec vous aujourd'hui, justement, c'est que le cerveau est l'organe le plus important du plaisir. Oui, le plus important. Et que donc, quand il est parasité par des tâches annexes, il n'est pas disponible pour le plaisir. Si tourne dans votre tête une to-do list plus ou moins consciente des courses à faire, des devoirs des enfants, de la promenade du chien, ou tout ce qui compose la charge mentale des femmes aujourd'hui, que ce soit de l'ordre du travail professionnel, domestique ou éducatif, bah, ça marche pas bien. Alors oui, le corps peut réagir aux stimulations, vous pouvez être humide ou carrément mouillé, mais ce n'est pas pour autant que le plaisir sera de la partie. Le désir non plus d'ailleurs. Être attentive à tout ce qui est susceptible de nous exciter ne suffit pas. Il faut aussi réussir à faire taire tout ce qui peut freiner le désir. Le désir, l'excitation du corps et le plaisir sont trois choses différentes qui sont parfois en totale dissonance. Pourtant, pour que cela fonctionne, il faut que les trois pôles soient alignés en quelque sorte. Un peu comme les étoiles de tout à l'heure, vous savez. L'orgasme peut être une réponse mécanique du corps. Et cela ne doit pas être pris pour autant pour une marque de consentement. Je finirai cet épisode par quelques recommandations de documentaires que j'ai trouvé très bons, que je vous ai déjà donné, il me semble, le mois dernier, mais c'est pas grave, je vous les rappelle à nouveau. Le premier, c'était Mystère et boule d'orgasme sur France TV / c'est aussi un chouette compte Instagram du même nom. Et sur Netflix, donc les principes du plaisir en 3 épisodes. Est-ce que quelqu'une d'entre vous les a vus, ces documentaires ?
Moi, j'ai vu celui sur Netflix, j'ai vu le premier épisode.
Et qu'est-ce que t'en as pensé ?
Et c'est cool, c'est surtout sur les femmes américaines, du coup.
Oui, c'est vrai, c'est des américaines.
Du coup, je suis pas sûre que... Enfin, je sais pas si ça peut se transposer aux nanas européennes.
Ah bon ?
Oui, je sais pas. J'ai bugué sur certains trucs et je me suis dit, oh, peut-être en Europe, ils auraient interrogé des gens en Europe, ça serait peut-être poisson. Les réponses seraient peut-être différentes.
Oui, il y a sûrement des différences culturelles. Après, ouais. Sur la... Oui, peut-être, effectivement. J'allais dire, sur la façon dont fonctionne le plaisir, peut-être...
La retenue, la... Comment on dit, la... Des gens un peu plus prudes, peut-être, qu'en France, non. J'ai peut-être des clichés, c'est peut-être des clichés, hein.
Non, non, mais de toute façon, en fonction des différentes cultures, il y a forcément des approches différentes de la sexualité.
Moi, je les ai pas vus, mais au cas où quelqu'un aurait envie de les écouter à l'écoute, ça marche à tous les âges, c'est-à-dire que ça répond à des questionnements qu'on peut avoir, même ado, par exemple.
Oui, ces documentaires-là, ils sont adaptés aux ados. Oui.
Ok.
Eh bien, merci. C'était l'émission de mai d'Overbooker. Vous êtes toujours sur Radio Campus 87.7. N'oubliez pas, le 2 juillet, on se retrouve à Amiens pour la Marche des Fiertés. On sera ravis de tous vous y retrouver, de vous y rencontrer. Et puis, en attendant, faites bien attention à vous. On vous embrasse. À bientôt.
Au revoir.
Bisous.
Salut.